Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de féminisme moderne. Le féminisme moderne, c'est pas les femmes contre les hommes, mais c'est les femmes et les hommes, main dans la main. Et ça, ma femme d'aujourd'hui le vit au quotidien, c'est son travail de terrain en tant que journaliste d'investigation. Elle nous raconte tout ça.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Dounia Msfer, bonjour, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Dounia, comment ça va?
Bonjour Yasmine, merci à vous pour l'invitation. Écoute, ça va, tout va bien.
Un plaisir de vous avoir. Alors Dounia, avec vous, on va parler de beaucoup de choses et notamment du journalisme d'investigation parce que c'est votre passion, n'est-ce pas?
Tout à fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu faire, en fait, déjà toute petite. Je pense que déjà à l'âge de 7-8 ans, ça me passionnait de voir à la télé, surtout tous ces reporters de guerre, etc. C'était quelque chose qui me parlait énormément et j'avoue que oui, le journalisme est véritablement une passion.
Mais le journalisme de terrain.
Exactement. C'est principalement le journalisme de terrain. Je suis beaucoup plus intéressée par ça parce que, surtout chez nous, en fait, il y a tellement de choses à dire sur ce qui se passe au Maroc. Et puis surtout au Maroc, nous avons beaucoup de zones qui sont relativement enclavées, dont on parle très très peu dans les médias ou en tout cas pas assez. Et surtout, on ne donne pas, je pense, assez la parole aux populations. Et donc, c'est vraiment ça. Ça m'a toujours intéressé d'aller sur le terrain, d'être en immersion totale. Donc, j'ai déjà passé plus de 15 jours ou parfois 20 jours sur le terrain à discuter avec les populations et à parler avec eux. Et c'est quelque chose de passionnant. C'est pas toujours facile. C'est souvent dur même, que ce soit physiquement ou même émotionnellement, mais je pense que voilà, quand on est animé par certaines valeurs, c'est nécessaire, en tout cas de faire ça.
Absolument. Et parfois, vous avez été aussi accompagné par de grands organismes, notamment l'UNESCO pour des études de terrain. Quand vous dites que ce n'est pas facile ni physiquement ni émotionnellement, j'imagine que la fatigue émotionnelle ou plutôt l'impact émotionnel est bien plus important quand on est une personne humaine et vous l'êtes, sinon vous ne feriez pas ce métier, vous n'irez pas dans des endroits aussi reculés. Ça doit faire mal en fait de se dire moi j'ai ma vie confortable quand je rentre chez moi, dans ma grande ville moderne. Mais dans ces régions enclavées, il y a reculé, il y a des familles, il y a des enfants qui sont en difficulté.
Oui, effectivement. En fait, c'est surtout, comme tu disais, c'est bien plus l'impact émotionnel qui est dur. En fait, les sujets sur lesquels je travaille depuis un peu plus de 20 ans, donc c'est principalement des sujets de société. J'ai beaucoup travaillé sur la migration, sur les droits des femmes, en particulier le mariage des mineurs, oui. La situation des personnes en situation de handicap de manière générale, mais principalement handicap mental, et enfin les enfants. Oui. Et la précarité finalement. Au final, ce sont tous des sujets qui sont en relation avec la précarité.
Exact.
Et oui, c'est pas toujours évident. Enfin, je veux dire, j'ai encore des souvenirs en tête, surtout quand il s'agissait de mariage de mineurs, où on voit une petite gamine, et là je parle de 2010 par exemple, où on avait des jeunes filles, plutôt non, des enfants, parce qu'il faut, je pense qu'il est important de rappeler que ce sont des enfants de 12 ans, 13 ans, mariés à des hommes de 30 ans, 35 ans, 40 ans, voire plus. La manière dont ils parlaient des femmes, et j'avoue que ce n'était pas du tout évident. De même que
par exemple, vous avez entendu quoi, Dounia?
Alors, j'ai une phrase, moi, qui m'avait marquée. D'ailleurs, j'avais même écrit dans mon papier. C'était une fois où j'essayais de discuter avec certains jeunes en essayant de comprendre pourquoi est-ce qu'ils étaient attirés par les petites filles. Et le gars qui m'explique il compare la fille à un yaourt en me disant, écoute, c'est comme lorsque tu prends un yaourt, au départ, il est très bon. Quand il périme, il me dit, donc la petite fille, c'est pareil. Et puis, il vaut mieux prendre une petite fille. Comme ça, on l'adresse bien comme on veut. Donc, c'était quand même très, très dur de voir aussi la précarité de ces femmes qui, elles, faisaient clairement, elles nous disaient, vous êtes des femmes, nous, on est des brimades. C'est quand même dur aussi tout simplement parce qu'elle est dans les champs, qu'elle est en train de travailler dans les champs, et en fait, elle ne se rendait même pas compte de tout le travail qu'elle faisait, à savoir se lever à 5 heures du matin, s'occuper de la maison, sortir dans les champs, sortir le bétail, aller puiser de l'eau, etc. Il y avait aussi les jeunes filles, les filles qu'on déscolarisait aussi très très tôt, alors que les garçons, on les emmenait à l'école. Enfin voilà, c'est quand même, c'est assez dur. Ça permet en fait de beaucoup relativiser. Donc effectivement, quand on revient en ville, on se dit bon ben on est plutôt bien loti et quand même on a de la chance. Mais c'est important aussi de savoir et ça moi c'est ce qui m'encourage à faire tout ce que je fais. C'est tout simplement parce que j'estime qu'aujourd'hui il faut donner la voix à ceux qui n'en ont pas. Donc la voix ou sans voix, c'est important parce qu'au final ils représentent quand même 90% de la population. Que toutes les décisions qui sont prises, etc., les concernent, mais au final, ils sont complètement à l'écart. Toutes ces nouvelles infrastructures qu'on réalise, le pays, parce que le pays fait des choses, hein. Je ne dis pas que le pays ne fait pas des choses, mais le pays fait des choses, mais malheureusement, pas tout le monde en profite, et certainement pas cette population-là. Donc
ouais,
c'est dur.
Alors, si on devait revenir sur le mariage des mineurs, Dounia, justement. Mm-hmm. Alors, déjà avec l'avènement de la Modouana en 2004, donc sur papier, les choses étaient claires. Pas de mariage, justement, l'âge légal qui passait de 15 ans à 18 ans à l'époque. Et il y avait eu une campagne, je m'en rappelle, parce qu'on l'avait bien couverte sur Média, il y avait eu une campagne de 5 ans.
C'est l'article 16, en arabe, c'est Tsubut Zawjia, en fait, c'est la reconnaissance des mariages effectivement coutumiers,
oui.
Et dans un objectif de préserver les droits de l'enfant. Effectivement, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été... qui sont nés hein, dans le cadre de mariage coutumier.
Mais le Maroc s'était donné 5 ans pour le faire.
Tout à fait.
Exactement. Ces 5 ans se sont transformés en 15 ans.
En 15 ans, et là je pense qu'on est à 20 ans, parce
à 20
que
ans,
l'article existe toujours. Il n'a pas été justement... alors que l'objectif était qu'au-delà de 5 ans, on allait revoir le code. Et moi, c'est à ce moment-là que j'avais beaucoup travaillé sur le mariage des mineurs. Passé 5 ans, effectivement, quand on allait dans les régions enclavées, ben, en fait, ils n'avaient pas connaissance de ce texte. Mais surtout, en fait, c'est qu'avec l'avènement du code de la famille, qui est en soi une très bonne chose, même s'il mérite aujourd'hui, enfin, il faudrait refaire une refonte par rapport à certains articles. Mais en fait, le mariage, contracter un mariage, était devenu plus compliqué parce qu'effectivement, il fallait aller au tribunal, etc., pour légaliser certains papiers, pour avoir l'autorisation du juge de se marier.
Exact.
Or, quand on habite dans les montagnes, ou en tout cas dans des régions très enclavées, où le centre administratif se trouve à une centaine de kilomètres, ce qui suppose du transport, un hébergement... pour ces familles-là, ça supposait quand même un gros revenu. Et donc, elles continuaient à avoir recours au mariage coutumier. Donc, c'est là où les associations féminines, au-delà de 5 ans, avaient plaidé pour qu'il y ait une prolongation, finalement, de cet article, mais accompagnée d'une campagne de sensibilisation avec la mise en place de tribunaux ambulants, c'est-à-dire des tribunaux qui vont
absolument
vers ces populations-là pour les aider, justement, à régulariser leur situation. Passé 5 ans, effectivement, il y a eu quand même pas mal de choses qui avaient été faites.
Et ça, Dounia, c'est des choses que vous avez vous-même observées en tant que journaliste et documentée, en tant que journaliste d'investigation.
Tout à fait. Et c'est quelque chose que j'ai pu observer dans de ces années et surtout dans plusieurs régions du Maroc, en fait. Ce n'est pas localisé dans une seule région, c'est dans beaucoup de régions. Et aujourd'hui, par exemple, alors par contre, ça, c'est un sujet sur lequel j'ai un petit peu moins travaillé, mais même au sein des grandes villes, on peut avoir ce genre de mariage, notamment dans certains milieux. Je n'ai pas assez de données sur ça, mais en tout cas, dans les régions enclavées, oui, c'est quelque chose qu'on constatait. Et petit à petit, ça a commencé à disparaître, effectivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mariages de mineurs, les chiffres baissent. Mais encore une fois, ce sont que des choses qui sont déclarées. Il y a beaucoup de chiffres, en fait. Il y a beaucoup de zones sur lesquelles on n'a pas nécessairement des chiffres. Et donc, ça baisse. Mais la loi est encore là. Donc, tant que cette loi et tant que cet article de loi est encore là, Il y aura encore des dérives. Et aujourd'hui, on se rend compte tout simplement que ce qui devait être l'exception est aujourd'hui la règle.
Absolument. C'était l'exception. On avait donné 5 ans à l'exception pour l'éradiquer. Finalement, on est toujours dans cette exception, comme vous dites, qui devient la règle. Alors, Dounia, justement, Dounia, la femme dans tout ça, est-ce que ça impacte un petit peu la relation, la perception qu'on a de soi en tant que femme, quand on remarque, quand on voit, quand on vit un petit peu le malheur des autres?
Ah, c'est une question un peu compliquée. Alors, en tant que femme, oui, comme ce que je disais tout à l'heure, ça permet vraiment de relativiser et de se dire que, bon, ben, en tant que femme, j'ai quand même, moi, beaucoup de chance. Beaucoup de chance dans la mesure où effectivement j'habite en ville et que je suis d'une certaine manière on va dire protégée, mais au final on se rend compte aussi que peu importe notre condition sociale ou d'où est-ce qu'on vient, en fait il n'y a pas de différence, et ça c'était quelque chose pour moi de très important, et c'est ce que j'essayais de dire aux femmes que je rencontrais et même aux femmes ici qui sont issues peut-être d'une classe sociale beaucoup plus élevée et qui pour elles c'est des problèmes qui ne les concernent pas. Mais non, je pense que c'est important de rappeler qu'au final, peu importe où on vit, on est tous régis par les mêmes lois. Et donc, ça, pour moi, en tant que femme, c'était aussi important d'en prendre conscience. Et moi, je pense
est-ce qu'on en veut aux hommes quand on voit ça? Est-ce qu'on devient une femme qui en veut aux hommes?
Non. Non. On n'en veut pas. Bon, il peut, si. Alors, je vous avoue que quand j'étais sur le terrain, il m'est arrivé plus d'une fois, surtout quand je vous disais, je me retrouve avec une gamine de 13 ans et un homme de 50 ans qui me parlait de dresser la jeune fille comme si on parlait de dresser un chien, en fait.
Ouais.
Ça me rendait malade. Mais non, je pense que non, je n'en veux pas aux hommes. Et je me dis féministe, mais je ne suis pas dans le féminisme radical où tout est de la faute des hommes. Pas du tout, absolument pas, parce qu'en fait, derrière toutes ces raisons-là, il y a aussi des choses dont il faut prendre conscience. Déjà, on est dans une société patriarcale, ce n'est pas nécessairement la faute de tous les hommes, en tout cas de tous les Marocains. Nous avons des lois qui font qu'ils sont plus à leur faveur, et puis surtout aussi, il y a le problème de l'analphabétisme qui touche aussi bien les hommes que les femmes. Donc, il y a un problème aussi d'éducation. Donc non, ce serait trop réducteur, je pense, que d'en vouloir aux hommes. Et puis surtout, sur le terrain, j'ai pu constater aussi qu'il y avait des hommes qui étaient extraordinaires, et c'était parfois des hommes qui se battaient pour leurs filles plutôt que les mères, en fait. Donc ça donne aussi espoir en se disant que voilà, il n'y a pas, c'est pas tous les hommes qui sont contre les femmes, absolument pas. Et on a de la chance aussi dans notre mouvement féminin féministe au Maroc d'avoir beaucoup d'hommes qui accompagnent les femmes pour la revendication de leurs droits, etc. Donc non,
c'est pas les femmes contre les hommes.
Non, en tout cas moi c'est pas ma conception ni du féminisme, non, pas du tout.
Alors justement, la conception de Dounia Msfer du féminisme, elle est comment ?
Moi, je pense qu'avant tout, il faut être humaniste, plus que tout, égalitaire, être animé par des valeurs de démocratie participative, c'est-à-dire où tous les concitoyens et concitoyennes, leur parole doit être prise en compte. Moi, c'est ça, être féministe. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une égalité des sexes où les hommes et les femmes sont égaux. Et puis aussi que les hommes... enfin, ça, c'est quelque chose aussi qui est très important. C'est qu'il ne faut pas oublier que nos hommes, ici au Maroc, la manière dont ils sont éduqués, élevés, sont aussi victimes, finalement, de cette domination patriarcale. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi...
Alors, comment vous pouvez l'expliquer aux hommes, justement, leur placer le miroir devant les yeux? Parce que quand on dit aux hommes, vous êtes victimes aussi de ce système patriarcal, alors que dans leur esprit, c'est ce qui leur permet d'avoir cette toute-puissance, comment on peut leur montrer qu'au contraire, ça peut être néfaste? C'est néfaste pour eux.
C'est néfaste pour eux, pour la simple raison que ici au Maroc, on éduque toujours les hommes de « il faut que tu sois fort, il ne faut pas que tu pleures, il ne faut pas que tu montres tes émotions, etc. » Et c'est très violent, je pense, pour les hommes. Et donc aujourd'hui, il faut quand même leur dire « tu as le droit de pleurer, tu as le droit tu as le droit de ne pas être bien et de l'exprimer. Et peut-être qu'en reconnaissant aussi ta part de féminité, parce qu'au final, je pense qu'être humain, même si on est femme, on a une petite part de masculinité, et du côté des hommes également, ils ont une part de féminité, c'est de leur dire, reconnaissez ça, peut-être que vous allez vivre beaucoup mieux. Et puis moi, par exemple, il y avait toujours sur le terrain, avec la société civile avec qui je travaillais, il y avait toujours quelque chose, une phrase qu'on disait au père, pour qu'ils comprennent aussi, c'était leur dire, ok, vous ne voulez pas penser à votre femme, mais alors pensez à votre fille, pensez à votre mère, pensez à votre sœur. Est-ce que vous voudriez qu'un homme les traite de cette manière? Et effectivement, plus on discutait avec eux, ils se rendaient compte que oui, que ce n'était pas normal finalement d'agir comme ça, et donc ils se battaient après pour leur femme et leur fille. Donc je pense qu'il faut juste rappeler ça en fait aux hommes, leur dire que vous aussi, vous avez le droit de vous exprimer et de dire ce qui ne va pas. Et en soutenant les femmes, c'est pas vous êtes, on vous diminue pas en tant qu'homme, pas du tout. Vous serez juste plus fort parce que on sera à deux finalement.
Absolument. Mais quand un homme, justement, on lui dit « tu n'as pas le droit de pleurer », il grandit sur ça et qu'aujourd'hui, il entend une femme sur les ondes de médias lui dire « mais non, mais tu as le droit de pleurer », le déclic, il ne peut pas se faire aussi facilement. C'est tellement ancré dans sa tête qu'il va se dire « mais pourquoi elle me dit ça ?»
Bah, déjà, je pense qu'il y a un problème avec l'histoire de Rujula. Hein. Je crois qu'il y a un gros problème avec l'histoire de Rujula. Et ben, je les inviterai en fait à écouter un super podcast qui a été fait justement par un homme pour parler de tout ça, qui s'appelle Monsieur Rujula.
Ouais.
Et je pense que ça serait très utile pour eux d'écouter ça. Alors déjà, c'est en dialecte, donc marocain, en Darija, donc c'est très accessible. Et puis, ce serait pas mal qu'ils écoutent ça pour comprendre que c'est possible. Mais je pense que c'est quelque chose qui est en train peut-être de changer avec les nouvelles générations. Donc, il faut espérer que les choses changeront. Et il faut aussi que les femmes s'imposent un peu plus aussi, parce que faut pas oublier que derrière les hommes, il y a aussi des femmes. Et c'est souvent les femmes aussi qui les éduquent, pas que l'homme. Donc c'est important aussi de rappeler à ces femmes-là que ce qu'elles ont, elles, peut-être subi pendant leur mariage ou en étant jeunes, ben, il ne faudrait pas que d'autres femmes le subissent. Ça aussi, je pense que c'est important. C'est pour ça que le travail, c'est pour ça que moi j'estime que quand on travaille sur ces questions-là, il faut véritablement travailler avec les hommes et les femmes. Et c'est quelque chose sur le terrain, j'ai pu constater, notamment à travers le travail de la société civile que j'accompagnais pendant ces campagnes, qui travaillait pas qu'avec les femmes, elle travaillait avant tout avec les hommes. Et d'ailleurs, pour pouvoir travailler avec les femmes, elle démarrait le travail avec les hommes, avec les sûrs du village, avec les dignitaires, les notables, on va dire, des villages.
Il faut les convaincre d'abord, avoir leur aval.
Exactement, et surtout pour leur dire, si votre femme travaille, si votre femme accède à plus d'égalité, c'est votre couple qui ira mieux, c'est votre vie également qui ira mieux. Et je pense que petit à petit, les gens commencent à en prendre conscience. Il faut garder espoir, mais bon, c'est un travail de longue haleine.
Absolument. Et parfois, il y a des cas formidables, il y a des histoires formidables d'hommes, justement, même dans les contextes les plus défavorisés, qui poussent leurs femmes à se surpasser. J'ai eu le plaisir de recevoir récemment Fatema Al-Gherbaoui, Jbliya, de la région de Fleu-Nord. Et elle s'est mariée à 12 ans, elle a eu ses enfants, etc. Bref, vers l'âge de 30 ans, elle arrive en ville. Ma'amara maqrat, ma'amara maqsbat, rien du tout. Et un jour, elle se fait insulter dans la rue par quelqu'un qui la traite justement de, entre guillemets, excusez-moi l'expression, d'illettré, et à côté de son mari. Et son mari vraiment a pris ça comme l'ultime affront, et il a poussé sa femme à étudier. Aujourd'hui, elle est peintre et elle fait des expositions, etc. Donc, il y a toujours des histoires qui donnent espoir.
Exactement. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, d'un papa, et ça, c'était extraordinaire, c'est dans la région de Zagora, dans le sud du Maroc, où j'avais travaillé sur la déscolarisation donc des petites filles, où là-bas, c'était vraiment légion, c'était vraiment impressionnant. Les filles n'allaient pas en cours, et il y avait ce papa qui venait d'un petit village à côté de Zagora, et qui se battait pour ses filles, malgré que tout le village et sa femme en premier s'opposaient à ça.
Ouais. Sa femme également.
Sa femme en premier, vraiment, oui, c'était sa femme qui s'opposait au fait que ses gamines aillent à l'école. Surtout qu'après le collège, après, pardon, le primaire, elle devait aller au collège et donc aller dans une taliban, donc à l'extérieur du village. La mère était contre, mais pourtant le père s'est battu, il est parti voir Dar Taliban. Bon, ça ne lui a pas plu les conditions, il a loué pour ses filles. Et aujourd'hui, en tout cas à l'époque, quand moi je l'ai rencontré il y a peut-être 4 ans, il se battait pour que sa fille aille à Agadir étudier médecine. Et c'était tout le village qui était contre lui en lui disant, mais quel exemple tu es en train de donner à nos filles en laissant tes filles, excusez-moi le terme, sortir à l'extérieur, donc entre guillemets, comme si elles allaient se prostituer. C'était complètement faux. Et c'était extraordinaire. Moi, pour moi, c'était un papa... Et il y en a beaucoup des exemples comme ça. Et c'est pour ça que c'est important, en fait, d'aller vers les populations, de les écouter, et de ne pas être en train de juger, mais plutôt de vraiment les écouter et d'essayer de rapporter de manière la plus honnête leurs propos. Tout en discutant avec eux pour essayer de comprendre aussi les raisons qui font que parfois ils ont certains agissements. Et parfois les raisons de la déscolarisation, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'école à côté. Donc il y a ça aussi en fait à prendre en compte. Les infrastructures ne sont pas toujours là aussi pour aider ces populations, parce que quand on va dans d'autres villages où l'école est à proximité, les filles vont à l'école. Donc parfois c'est pas juste l'homme qui refuse de donner l'accès, d'envoyer sa fille à l'école. Non, c'est surtout le papa qui a peur pour sa fille.
Exact.
Qui va peut-être parcourir des kilomètres et des kilomètres et donc pouvoir être victime de maltraitance ou autre, en fait.
C'est beaucoup plus large que ça aussi.
Exact.
Mais ça, c'est une crainte, même dans les villes. Ça me rappelle encore une fois l'histoire d'une jeune fille qui a été déscolarisée en ville, à Rabat, à Tmerra plus précisément, déscolarisée par son père, arrivée au collège parce qu'il avait peur pour elle. Et c'était sa hantise, qu'il lui arrive quelque chose, qu'elle soit harcelée, qu'elle soit molestée. Et puis voilà, 4 ans après, elle s'est battue et a fini par convaincre son père de la remettre dans le circuit classique. Elle va démarrer le lycée l'année prochaine. À l'âge de 19 ans. Mais elle le vit très bien aujourd'hui. Elle dit « Je suis arrivée à ce que je voulais, je suis revenue à l'école et voilà. Et le plus important pour moi, c'est de continuer mes études le plus loin possible. » Donc, comme quoi, même en ville, comme tu disais, comme vous disiez, Dounia, c'est possible, hein, ces histoires-là.
Mais bien sûr, tout est possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la sensibilisation est très importante. Et je pense aussi, ce qui est très important aussi, c'est de donner des rôles modèles aux femmes. Aujourd'hui, on n'en a pas assez. Et ça, effectivement, que ce soit à la campagne, que ce soit dans les régions enclavées, en montagne ou en ville, même pour les femmes cadres, hein, qui ont pourtant
bien
tout
sûr
ce qu'elles veulent, c'est important. Nous manquons aujourd'hui de rôles modèles. Et or, aujourd'hui, c'est important de promouvoir le leadership féminin.
Absolument.
C'est urgent, en fait, de promouvoir le leadership féminin et d'expliquer que les femmes ne sont pas contre les hommes, mais qu'il faut qu'on travaille main dans la main et que c'est comme ça que notre société va évoluer et va pouvoir se développer. Et notre pays aussi rappeler que, je ne sais pas, moi, par exemple, pendant l'indépendance, les femmes se battaient aux côtés des hommes. C'est important aussi de rappeler ce genre de choses. On a eu aussi de grandes figures féminines, mais on ne les connaît pas assez et les jeunes générations ne les connaissent pas. Donc c'est important de continuer ce travail-là de sensibilisation. Il est important aussi que la totalité de notre population, hommes ou femmes, soit alphabétisée. Et donc il faut continuer avec les cours d'alphabétisation. Et puis il est important aussi que toute la population et droit à une vie digne.
Et c'est pour ça que Femmes d'aujourd'hui est là, justement, pour rapprocher ces role models, parce que en chaque femme, justement, il y a un élément qui peut influencer positivement, justement, et qui peut nous influencer positivement les unes et les autres. Dounia Msfer, merci infiniment, beaucoup, d'avoir été ma femme d'aujourd'hui, d'avoir pris de votre temps pour nous parler de ce qui vous passionne. Et voilà, donc à très vite, j'espère.
À très vite, merci beaucoup Yacine pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de vous parler.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.